Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, les choses de la vie, en direct ou en podcast sur l'appli France Inter. Bonjour Marie-Laure Sunshine.
Bonjour Ali.
Vous êtes chef des actualités de l'hebdomadaire Femme Actuelle et on vous retrouve en fin d'émission. Cette semaine, vous vous demandez si l'on peut encore adopter en France.
Et oui, il n'y a pas d'Eldorado de l'adoption à l'étranger, c'est la sombre prédiction de la mission de l'adoption internationale derniers jours.
À tout à l'heure Marie-Laure Sunshine. Jusqu'où ira l'ubérisation de la société? C'est notre thème ce matin. Ubériser un secteur d'activité, c'est le déstabiliser, le transformer avec un modèle économique innovant tout en tirant parti des nouvelles technologies. Les taxis, le covoiturage, l'hôtellerie, la restauration s'ubérisent à grands pas. Quels sont les secteurs qui le seront demain? L'ubérisation transforme-t-elle la nature du travail? Est-ce un drame programmé pour l'emploi? À quoi ressemblera une société ubérisée à l'horizon des 10 prochaines années? Qui en seront les gagnants et les perdants? N'hésitez pas à poser toutes vos questions au 01 45 24 7000 par mail grandbienvousfasse@radiofrance.com et sur notre page Facebook.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebbi.
Vous connaissez Uber Pop. Aujourd'hui, Uber s'attaque à un nouveau secteur d'activité, l'hôpital, avec Uber Hop.
Bon alors je résume. Vertige, vomissement et prise de poids. Wikipédia est formelle, vous êtes enceinte.
Ah bon?
Je suis un homme.
Je suis catégorique.
Allez, on se revoit dans 9 mois, ça fera 5,40€.
Gérard, vous proposez aussi des opérations.
Bon, rien de trop compliqué. À la base, je suis coursier. Je fais ça pour arrondir mes fins de mois. Je fais une appendoc par-ci, par-là.
Vous êtes certain que c'est l'appendicite?
Absolument.
Mais c'est pas à droite, normalement?
Ta-ta-ta-ta, dites donc. Chaque problème en son temps, hein. On va d'abord ouvrir et on verra après.
Ah merde, j'avais oublié que je devais livrer un colis à Neuilly.
Hein? Bon, bougez pas de là, je reviens d'ici une demi-heure, hein.
Un extrait des Guignols en juin 2016. Bonjour Denis Jacquet.
Bonjour.
Vous êtes entrepreneur. Vous êtes entrepreneur, membre de l'Observatoire de l'ubérisation et vous avez publié chez Duno Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien. Bonjour Maître Jacques Barthélémy.
Bonjour.
Vous êtes avocat, conseil en droit social, ancien professeur associé à la Fac de droit de Montpellier et vous avez publié avec Gilbert Sept, Travailler au 21e siècle, l'ubérisation de l'économie. Alors, selon le Robert historique de la langue française, c'est le publicitaire Maurice Lévy qui emploie le terme ubérisation pour la première fois en 2014. Ubérisation est tirée du nom de l'entreprise californienne Uber, créée en 2009. Ubériser un secteur d'activité, c'est donc le déstabiliser, le transformer avec un modèle économique innovant, tout en tirant parti des nouvelles technologies, nous dit le dictionnaire Le Robert. Vous êtes d'accord avec cette définition, Denis Jacquet, quelle est votre définition de l'ubérisation?
En fait, il y a pas et plein de définitions. C'est-à-dire quand tout dépend de l'angle qu'on veut aborder sur cette ubérisation. C'est-à-dire, déjà, c'est quoi l'ubérisation? Est-ce qu'on parle uniquement de ce phénomène de plateforme qui capte une valeur, qui transforme un modèle économique, qui utilise des indépendants? Parce que grosso modo, c'est ça le sujet aujourd'hui. Hein, même si VTC Taxi, en réalité, c'est pas ça le débat, puisque la plupart des taxis n'étaient pas salariés aujourd'hui. Où on dit, bah, finalement, c'est juste un ersatz qui est là pour poser à la place du mot digital, nouvelle technologie, qui lui bouleverse de façon beaucoup plus fondamentale. Si on parle de robotisation, d'automatisation, si on parle de post-humanisme, on est bien au-delà. Là, on est sur des débats philosophiques, etc. Donc, tout dépend de ce qu'on met derrière la définition, tout dépend du débat et de l'angle qu'on veut faire prendre au débat.
Et on parle d'ubérisation, comme on a parlé dans le passé, de toyotisme ou de fordisme?
Oui, je pense que chaque décennie a sa mode et a son mot. Je pense que, alors moi j'ai appris ce week-end, comme vous, je pensais que notre ami Maurice Lévy avait inventé cette formule, qu'il a repris d'un journaliste américain qui l'avait auparavant mise en place, mais il est toujours très opportuniste et plutôt bon dans la reprise. Mais effectivement, ce terme s'est imposé un peu. Nous, on l'a repris pour l'Observatoire, on l'a pris pour à la fois pour le livre, qui a un point d'interrogation à la fin d'ennemi qui vous veut du bien, hein, ce qui est vraiment important, se poser des questions sur ce phénomène. Et puis, pour les assises qu'on fera la semaine prochaine, c'est une série de questions.
Maître Barthélémy, quelle est votre définition de l'ubérisation?
D'abord, je voudrais revenir sur le point d'interrogation, qui est très important. Dans notre livre aussi, nous disons ubérisation de la société, point d'interrogation, pour les raisons que M. Jacquet a parfaitement explicitées, c'est-à-dire que c'est réducteur par rapport à l'importance de la révolution industrielle technique qui se fait.
Troisième révolution industrielle.
Je ne sais pas si c'est. On peut parler encore de civilisation de l'usine. Et pour ma part, je pense qu'on est en train de voir émerger une civilisation du savoir ou de l'intelligence, alors que les précédentes révolutions techniques technologiques n'ont eu pour effet que d'aménager la civilisation de l'usine. Et l'instrument qui le démontre le mieux, c'est que les outils technologiques qui se sont développés au fur et à mesure du temps qui s'est écoulé ont toujours servi exclusivement à l'activité professionnelle. Aujourd'hui, les outils, ils servent en même temps à l'activité professionnelle, à l'activité personnelle, ce qui, pour les juristes, pose des problèmes hyper intéressants, notamment au regard de l'épanouissement des libertés fondamentales de l'homme.
Pour vous, Denis Jacquet, l'ubérisation pose des questions existentielles.
Oui, parce que justement, je voudrais pas que je parle pas de votre émission, mais de façon générale, le débat est très cristallisé. On l'a vu, hôtellerie, mairie de Paris. Alors, de temps en temps, les hôteliers, mais en fait, le choc le plus frontal, il était avec la mairie de Paris, qui quand même trouve qu'une boîte qui a moins de 5 ans en France déstabilise le marché du logement parisien. Enfin, ça fait quand même un peu rire, quelque part.
Airbnb.
Bon, voilà. Donc, et de l'autre côté, on voit, parce que porte-maillot, c'est symbolique, c'est le principal axe parisien, et les merguez, ils sont plus visibles qu'ailleurs. Donc, forcément, quand ça bloque porte-maillot, tout le monde le voit.
Là, c'est vous les des manifestations voilà. Alors, de chauffeurs VTC.
Voilà, VTC taxi, puis tout à coup VTC contre Uber, et puis VTC bientôt entre eux. Et en réalité, derrière, ce qui est à l'œuvre est beaucoup plus important. Moi, il y a vraiment deux choses qui m'inquiètent, enfin en tout cas qui me posent question. C'est-à-dire, jusqu'ici, dans toutes les révolutions, il y avait un déversoir. C'est-à-dire, ceux qui étaient disruptés, bouleversés, révolutionnés d'un côté, retrouvaient de nouvelles formes de travail le lendemain. Là, on sait à peu près exactement ce qu'on va perdre, mais on n'a aucune espèce Exactement. D'idée de ce qu'on va gagner. Donc là, la première question, c'est de savoir quelle place on veut dans le monde de demain pour l'homme. Donc déjà, c'est qu'est-ce qu'il va faire demain, cet homme-là? Bon, est-ce que c'est juste une variable et une peine obligatoire? Et le débat pour Uber est une vraie question. C'est-à-dire, d'un côté, ils vous disent « Regardez, c'est extraordinaire, je crée des activités », et il faut leur avouer ça, c'est vrai. Aujourd'hui, ils ont sorti des jeunes du chômage, mais regardez, je suis déjà en train de mettre en Californie, même si c'était bloqué, des gens sans voiture, des chauffeurs, des voitures sans chauffeur, je vais y arriver, des camions sans conducteur. Donc en gros, les Anglais appellent ça des meat bags, c'est-à-dire des sacs à viande, donc grosso modo, c'est un mal nécessaire, l'humain. Et puis la deuxième question qui me pose encore plus de questions, c'est quand Google dit « Regardez, c'est extraordinaire, mon moteur de recherche, c'est gratuit », moi je traduis surtout « Je prédis tout, j'ai toutes tes données, je sais ce que tu fais, je fais ta santé, je fais ton éducation, etc. » Et au bout d'un moment, parce que je suis seul et sans concurrence, chez moi, enfin dans mes livres d'histoire, ça s'appelle une dictature potentielle. Et quand en plus j'investis 500 millions de dollars dans le post-humanisme, c'est une dictature éventuellement très dommageable pour l'histoire de l'humanité.
Jacques Barthélémy, vous partagez ce point de vue?
Ah oui, tout à fait. Les progrès des technologies ne peuvent que être utilisés par l'humanité dans la perspective d'accroître ses valeurs. Les valeurs de l'humanité, c'est d'abord la liberté, c'est la dignité, c'est la solidarité, etc. Toutes ces valeurs qui sont d'ailleurs des droits naturels, qui ont été mis en exergue par les philosophes du siècle des Lumières et que l'on a ensuite transformé en droits fondamentaux, la Convention européenne des droits de l'homme, mais avant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, toutes ces technologies libèrent fondamentalement l'homme et lui permettent de faire progresser ses valeurs. Mais il ne faut pas que, au vu du contexte dans lequel on les construit, ça se traduise par l'inverse, c'est-à-dire une espèce d'esclavagisme d'un nouveau siècle.
Alors, l'ubérisation crée aussi des fractures au sein de nos sociétés. Elle crée de très belles opportunités aux créateurs de start-up, mais elle est également synonyme de précarité pour les travailleurs indépendants et les auto-entrepreneurs qui proposent leurs services. Je vous donne juste un exemple d'un chauffeur de VTC que j'ai rencontré le 27 décembre dernier, 46 ans, auto-entrepreneur, il travaille 60 heures par semaine et le week-end, un chiffre d'affaires de 4000 euros, des charges de 3450 euros, il touche le RSA et il me dit préférer être en activité plutôt que de rester chez lui à ne rien faire.
Alors, moi je mets un certain bémol sur cette notion de précarisation. Parce que pour moi, je préfère la précarisation par le travail, mais c'est un point de vue personnel, que la précarisation par le chômage. Je préfère l'esclavage par le travail que l'esclavage par la... Il faut pas oublier que 67% des indépendants et notamment des chauffeurs de VTC étaient auparavant au chômage de longue durée. Oui. Ce sont des gens qui étaient discriminés, qui avaient aucune chance de mettre le premier pas dans le monde professionnel et cette opportunité leur a donné. Ça veut pas dire qu'il faut rester en l'état, dire on leur a donné ça, qu'ils soient contents, on s'arrête là. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à l'étape d'après. Mais je rappelle juste que dans un pays où il y a 10% de chômage, dans une Europe qui a pas de croissance, dans un monde qui a un faux taux de croissance intéressant, dire 4,5 ou 5% de chômage en Angleterre, mais regardez quel type de job, et les gens à travers les élections vous disent non mais c'est pas ce genre de croissance-là que
mais
je veux.
Denis Jacquet, enfin, beaucoup d'auto-entrepreneurs précaires ne bénéficient pas de la même protection sociale qu'un chômeur.
Bien sûr, bien sûr. Donc c'est ça la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de dire... Ils ont mis un premier pas. Ce premier pas d'élévation et de retour à une dignité par le travail est extrêmement important. Maintenant, il faut travailler sur leur statut. Je veux dire, aujourd'hui, c'est la société telle qu'elle échoue qui a précarisé les gens et pas l'ubérisation.
Maître Barthélémy.
Oui. C'est intéressant d'évoquer la loi de Novelli sur l'auto-entrepreneur. La loi de Novelli sur l'auto-entrepreneur n'a fait que donner un statut aux dirigeants de l'entreprise micro-entreprise qui avait été créée par Alain Madelin. Et la source principale de cette loi, c'est un rapport que j'avais fait au Conseil économique et social en 93 sur le développement de l'entreprise individuelle par opposition aux sociétés. Donc il ne faut pas résumer là aussi de manière aussi radicale. Il est faux d'abord d'affirmer, comme vous venez de le faire, que le statut social des non-salariés est moindre que celui des salariés. C'est faux. On a cessé depuis 48 d'harmoniser le statut des travailleurs indépendants en matière de protection sociale sur celui des salariés. Alors, c'est plus ou moins vrai. La vérité, s'agissant des auto-entrepreneurs, c'est qu'il y en a un grand nombre qui ont des revenus très faibles. Et c'est par là qu'il y a une difficulté.
Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Le psychiatre humaniste que l'on retrouve tous les mardis avec ses choses vues, il me semble que le sujet du jour vous a inspiré.
Oui, j'ai plein de questions moi, à poser à nos invités, mais je voudrais vous dire aussi que cette semaine, j'ai vu une de mes filles lutter contre l'ubérisation de ses rapports amicaux.
À tout à l'heure, nous attendons toutes vos questions au standard de France Inter au 01 45 24 7000, par mail grandbienvousfasse@radiofrance.com et sur notre page Facebook, Alexia Rivière et Claire Destacan m'ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Théo Denmat, et c'est Jérôme Boulet qui réalise cette émission. Be careful where you park your car. There's no telling what she might do. Cause she never had the chance to hurt you too. And if you're asking why, if you're asking why, you looked a little too pleased when you saw her. Chance to hurt you too. And if you're asking why, yeah, if you're asking why, you looked a little too pleased when you saw her cry, cry. Now that she knows you're just a clown, she's already starting to look at you. There's just one thing she's got to do. Le Revigorant, groupe 4 Size, à 10h21 sur France Inter.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Jusqu'où ira l'ubérisation de nos sociétés? C'est notre thème ce matin, en compagnie de Denis Jacquet, membre de l'Observatoire de l'ubérisation, et avec maître Jacques Barthélémy, avocat spécialisé en droit social. Denis Jacquet, l'ubérisation de l'économie n'est-elle qu'un effet de mode, un feu de paille?
Ça serait très étonnant, hein, parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont structurantes. C'est-à-dire que vous et moi, tant qu'on mettra notre index sur un smartphone, on fera de l'ubérisation. Hein, et je vois pas aujourd'hui, à part la suppression de l'index, et il en restera encore 9, ça me paraît assez compliqué à préconiser, en tout cas d'un point de vue législatif. Non, à moins de couper les mains, on trouvera. Et puis demain, vous savez qu'on peut commencer déjà à télécommander des choses télépathiquement. Hein, maintenant, ça y est, ça fonctionne. D'ailleurs, ce qui rend beaucoup de service à des gens qui sont atteints d'un certain nombre de maladies. Et puis progressivement, c'est la voix qui va remplacer. Hein, donc effectivement, on pourra provisoirement nous couper les index. Mais oui, non, c'est un phénomène qui est en marche. Maintenant, il va forcément trouver sa limite à un moment donné, puisque pour l'instant, il est l'œuvre de boîtes qui sont quand même mondiales, qui ont une vocation monopolistique, hein. Elles veulent pas de concurrents. Uber a pas du tout envie d'avoir de concurrents. Airbnb a pas envie d'en avoir. Et donc, du coup, à partir du moment où vous avez capté cette valeur, une fois qu'elle sera captée, voilà, la question, c'est plutôt, ça sera quoi le second souffle après cette ubérisation?
Quels sont les grands secteurs ubérisés, Maître Barthélémy, Denis Jacquet?
Oui. Oh, à peu près tout aujourd'hui. Hein. On a commencé à voir la génération YouTube pour la formation, mais elle est en train de se structurer maintenant. Donc, progressivement, cette formation va devenir, je pense que demain, alors moi j'ai une boîte de formation, donc du coup c'est un secteur que je regarde de très près, mais très clairement aujourd'hui, vous pourrez me former, je pourrais vous former, on va se former ensemble, les salariés des grands groupes vont former les autres salariés moins expérimentés, échanger entre eux, la santé bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, alors même chose, tout dépend de la définition qu'on donne de l'ubérisation, mais très clairement, l'invasion des technologies, l'utilisation de l'intelligence artificielle et des données fait que le médecin va finir par avoir un rôle de, à la fin je décide ou je décide pas, mais grosso modo sur des données que j'ai pas détectées moi-même, qui vont mettre à portée à peu près tous les secteurs.
Maître Barthélémy, plusieurs facteurs permettent de comprendre l'avènement de l'ubérisation. D'abord, l'aspiration à l'autonomie de plus en plus de travailleurs qui veulent se réaliser en dehors de la société salariale.
La civilisation de l'usine dans laquelle nous vivons a évidemment contribué à freiner les libertés, puisque le contexte dans lequel se développe l'activité économique, c'est une unité de lieu, une unité de temps, une unité d'action. Et par définition, le droit du travail a été créé par et pour la civilisation de l'usine. Donc l'opposition entre salariés et indépendants est la conséquence de cette civilisation industrielle. Mais on est parti à ce moment-là d'une définition du salarié à partir de la subordination juridique, c'est-à-dire au plan des conditions de travail. Or, qu'est-ce qui justifie un arsenal protecteur? C'est le déséquilibre contractuel qui rend nécessaire d'assurer la protection de la partie faible. Or, la dépendance économique, malgré l'indépendance juridique, la dépendance économique vicie aussi l'équilibre contractuel.
Mais il existe un lien de subordination entre les donneurs d'ordre et les auto-entrepreneurs qui dépendent d'une, deux ou trois sociétés.
Non, il n'y a pas de subordination juridique au sens où on l'entend.
De fait,
non, il y a une dépendance économique qui peut effectivement, au travers des modes d'organisation, se traduire par une subordination juridique, auquel cas il y a requalification, parce que le juge n'est pas tenu par la qualification que se donnent les parties de leur relation. Un arrêt très célèbre de la Cour de cassation de 1983 dit que la seule volonté des parties est inopérante à fixer la qualification de contrat de travail.
Je vous propose d'écouter cet extrait des Pieds sur Terre, diffusé sur France Culture en mars 2016.
Alors au début c'est un petit peu tabou, on a une commande, il y a accepter, refuser, au début on est là pour bosser, donc on accepte tout, tu fais 7, 8, 9 heures par jour, parce qu'en fin de compte tu peux te connecter quand tu veux, il est censé y avoir tout le temps du travail, j'ai fait ça pendant 2 mois, c'est là que j'ai perdu 10 kilos, jusqu'au jour où je suis rentré chez moi et la petite de 7 ans a eu peur en fait, et là j'ai commencé à penser non plus avec ma carte bleue mais j'ai commencé à penser avec mes jambes, donc je me suis mis à refuser. Je me suis mis à faire mon propre algorithme en me disant « si je dois faire cette commande-là, je vais faire trop de kilomètres ». Et quand on commence à réfléchir comme ça, on refuse beaucoup de courses. Mais quand on refuse beaucoup, on a un jour un coup de téléphone du manager qui dit « dis donc Jérôme, comment ça se fait que tu refuses autant ?» Et quand tu lui expliques qu'en effet tu vas pas traverser Paris pour aller livrer un burger bio ou je ne sais quoi, le mec il dit « ouais mais oh, c'est le jeu quoi ». Ils t'ont fait croire que t'étais libre, que t'étais entrepreneur et que t'étais un commerçant, chose que tu n'es pas, parce que tu dois porter une casquette, parce que tu utilises leur application, parce que tu fais partie de leur base de données.
Un extrait de l'émission de France Culture, Les Pieds sur Terre, ce livreur nous dit, ils t'ont fait croire que tu étais libre, Maître Barthélémy.
Oui, mais bien sûr, c'est là le grand problème, et c'est pour cette raison que la distinction entre subordination juridique et dépendance économique est importante, parce que l'arsenal qu'on a construit à partir de l'idée que le droit du travail est fait par et pour la civilisation de l'usine a eu un double effet pervers, celui de surprotéger ceux qui sont en état de subordination juridique mais qui ont un vrai degré élevé d'autonomie, voire l'indépendance technique comme un professionnel libéral, et qui peuvent négocier leur contrat dans l'équilibre des pouvoirs, et donc ceux-là sont surprotégés par rapport à l'ouvrier pour lequel on a construit le droit de travail. Et à l'inverse, celui qui est juridiquement indépendant, mais dépendant économiquement d'un donneur d'ordre, celui-là, c'est le bourgeois de Calais, dans la mesure où on lui dit « c'est un patron ». Et donc, il n'a besoin d'aucune protection. Ce qui n'est pas le cas, puisque sa relation est déséquilibrée.
Denis Jacquet.
Moi, je suis très triste, en fait, dans un pays qui a une langue aussi riche, qu'on utilise toujours les mauvais mots. En réalité, on n'aurait jamais dû dire à ces gens-là qu'ils étaient indépendants ou auto-entrepreneurs. Moi, je préfère la version anglo-saxonne. Alors, je suis déformé par mes années vécues aux États-Unis, mais ils disent self-employed. Ça veut dire que vous êtes auto-employé, ce qui est beaucoup plus proche de la réalité. C'est-à-dire que je suis une autre forme d'employé, sauf que j'ai une forme d'indépendance, au sens où je suis pas obligé d'aller au bureau, de pointer, il y a encore des pointeuses quelque part. Et puis après, philosophiquement, c'est quoi la liberté et l'indépendance? Moi, je suis entrepreneur. J'estime que j'ai une forme de servitude aussi vis-à-vis de mes donneurs d'ordre, même si j'en ai 200, parce qu'à un moment donné, quand un grand groupe en France paye à 73 jours, je me sens pas beaucoup plus libre que celui qui est en train, Jérôme, que je connais très bien, qui pédale sur son vélo. Donc, je pense qu'en fait, il y a eu une fausse promesse. C'est pas parce qu'on est indépendant qu'on est forcément totalement libre, qu'on est devenu un entrepreneur et qu'on est quelqu'un. On est tous dépendants. Donc, le problème est plus là. Le problème est de se dire, est-ce qu'on ne devrait pas réformer tout ça pour avoir un statut de l'activité et que vous soyez micro-entrepreneur, entrepreneur indépendant, il y a un même statut pour tout le monde, point à la ligne, qui n'est pas forcément de revenir au statut du travail qui, à mon avis, est totalement dépassé. Oui,
Jacques Barthélémy, c'est du pain béni pour vous.
Tout à fait en phase avec ce qui vient d'être dit à l'instant, et c'est l'essence même de cet ouvrage. Cet ouvrage a été créé conjointement par un économiste et un juriste, c'est important. Et les deux étant à la fois chercheurs et praticiens. Si vous voulez, aujourd'hui, il faut inventer un droit de l'activité professionnelle qui dépasse le droit du travail et qui concerne l'ensemble des travailleurs, du plus subordonné juridiquement au totalement indépendant économiquement. Bien sûr, de ce fait, avec un socle de droits fondamentaux applicables à tous et des protections supplémentaires, eu égard au degré d'autonomie.
Alors, parmi les facteurs de l'ubérisation, Maître Barthélémy, un taux de chômage élevé qui rend l'accès au marché du travail plus facile en tant qu'indépendant ou créateur d'entreprise. Et puis, il y a le cumul d'activités. Nous vivons l'avènement de la société du « et », être à la fois salarié et indépendant.
Oui, bien. Au moment de la préparation de la loi Khomri, lorsqu'ont été évoquées certaines de ces questions-là, il y a eu des interventions de jeunes ayant créé des start-up. Et je me souviens d'un garçon qui a dit « Mon grand-père a travaillé toute sa vie avec une seule entreprise. Mon père a eu 6 emplois consécutifs. Et moi, mon aspiration, c'est d'avoir 6 donneurs d'ordre en même temps. » Vous voyez bien qu'il y a un paradigme nouveau qui prend jour et auquel il faut apporter sérieusement attention. Et les progrès des techniques de l'information, de la numérisation, permettent cet accès. Le problème, l'obstacle, il est celui qu'évoquait M. Jacquet. Il ne faut pas qu'on crée des cartels, parce que là, on crée des obstacles aux droits fondamentaux de l'homme.
Denis Jacquet, vous êtes d'accord avec l'idée défendue par le directeur scientifique du groupe Kairos, Bruno Teboul, qui affirme que l'ubérisation nous fait entrer dans l'ère du capitalisme violent, imprévisible et sans limite, avec des conséquences sur le contrat social.
C'est-à-dire, nous, la vraie question qu'on se pose à l'Observatoire, où on a justement réuni des gens qui ont des positions totalement opposées, complémentaires parfois, opposées souvent.
L'Observatoire de l'ubérisation.
Donc Bruno fait partie de ces personnes, excusez-moi. Et donc, du coup, la vraie question qu'on doit se poser là-dessus, c'est comment faire une proposition alternative avec un modèle économiquement pérenne. C'est-à-dire que là, tel que c'est parti pour le moment, parce que le digital, aujourd'hui dans le monde, faut ouvrir les yeux, il est chinois et américain, point barre. Il n'y a pas un acteur européen digne de ce nom qui existe aujourd'hui.
Blablabla,
ça veut dire que... Non, blablabla. Alors, moi, j'aime beaucoup Jérôme. Frédéric, ça fait très longtemps que je le suis, comme tous les entrepreneurs qui ont croisé mon association Parrain à Croissance. Mais aujourd'hui, quand on voit Waze, cette application israélienne, elle va être capable de faire demain ce que fait Blablacar aujourd'hui. Donc, on n'a aucune idée de savoir si Blablacar existera encore dans 3 ans. Et surtout, c'est pas ça qui contrôle la donnée mondiale. La donnée mondiale, aujourd'hui, c'est un moteur de recherche. C'est la logistique à cause du e-commerce. Donc, c'est Amazon. Et puis, effectivement, c'est vos usages et vos outils. Et du coup, c'est Apple, un petit peu Samsung, etc. Donc, il faut proposer un modèle alternatif parce que tel qu'il est parti, effectivement, il est dangereux. Mais on peut le corriger. C'est une question de volonté.
Allez, il est temps de retrouver les choses. Chose vue de notre psychiatre humaniste Christophe André.
Je suis votre thérapeute.
Chose vue.
La blouse blanche, j'aime pas, ça fait médical.
Grand bien vous fasse.
Christophe André, tous les mardis nous retrouvons vos choses vues. Qu'avez-vous vu d'intéressant cette semaine?
Cette semaine, j'ai vu une de mes filles, la deuxième, dire non à un cadeau. Alors, elle fait des études littéraires, elle a un vieux téléphone portable, sans écran tactile, elle peut même pas envoyer ou recevoir des émoticônes. Et plutôt que de se payer un bel appareil, elle préfère s'acheter des livres ou des places de concert rock. L'autre jour, une de ses copines, très high-tech, elle, a voulu lui donner son vieil iPhone, car elle venait de se faire offrir le dernier modèle, et ma fille a refusé sans hésiter. Alors, je précise que c'est pas du tout une enfant sage, au contraire, c'est la plus baroudeuse de nos trois filles, elle passe son temps à explorer les catacombes, à grimper sur les toits...
C'est vous qui lui avez appris ?
Pas du tout. Alors, j'ai très peur quand elle passe des nuits entières là-dedans à faire du stop aux quatre coins de l'Europe. Elle boit des bières avec ses potes. Bref, mais elle déteste les smartphones et tout ce qui va avec. Alors, comme je lui demandais de m'expliquer son refus, elle a réfléchi un moment, puis elle m'a donné deux arguments convaincants. D'abord, ça rend les gens accros et ensuite, ça rend les groupes tristes. Et elle n'aime pas du tout ça, les groupes où on ne se parle plus, mais où tout le monde a le nez sur son écran. Les groupes où on est ensemble mais seul. Les groupes où on interrompt une conversation avec un humain véritable parce qu'une machine sonne ou vibre. Elle est furieuse contre cette digitalisation des cerveaux et cette ubérisation des rapports amicaux. Et il lui semble que l'air de rien, ça éloigne ses amis d'elle.
Que sont mes amis devenus, que j'avais de si prétenus et tant aimés. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort.
Alors vous connaissez le mot de Montesquieu, l'homme est un animal sociable. Eh bien ma fille, c'est l'être le plus sociable que je connaisse, un animal hyper sociable. Dès qu'elle arrive quelque part, en très peu de temps, elle connaît tout le monde la connaît, l'appelle par son prénom, elle se fait adopter instantanément. Il y a quelque temps, nous étions rendus en famille dans une grande école, à la remise de diplôme d'un de nos neveux. À la fin du cocktail qui suivait, au moment où nous voulions repartir, elle avait disparu. En partant à sa recherche, j'ai fini par la retrouver. Elle s'était fait inviter, je ne sais pas comment, dans le carré réservé aux VIP, les professeurs, les politiques, les personnalités. Elle était en train de discuter avec le directeur de l'école, une coupe de champagne à la main. Ils s'appelaient déjà par leur prénom, se tutoyaient et elle était en train de lui expliquer qu'il fallait qu'il adapte ses programmes pour que ses élèves soient de meilleurs citoyens, moins matérialistes, etc. Voilà le genre. Et c'est ça qui me rassure. Elle aime tellement les humains et la vie qu'elle est instinctivement allergique au trop-plein d'écran. Elle perçoit parfaitement que le temps d'écran, c'est du temps volé à d'autres activités plus joyeuses et essentielles. Et si elle, animal hypersocial, l'a compris aujourd'hui, d'autres de plus en plus nombreux vont le comprendre demain. Et vous, Ali, que faites-vous lorsque votre portable sonne alors que vous parlez à quelqu'un ?
Mais je décroche pas, Christophe André.
Félicitations.
Christophe André, que l'on retrouve tous les mardis avec ses choses vues. Et puis je signale la parution de 3 minutes à méditer. C'est ça, une coédition avec France Culture, le fruit de vos chroniques de l'été dernier. Que vous inspire le débat sur l'ubérisation, Christophe André? M'adresse au psychiatre.
Ah ouais, non, moi ça me passionne. D'abord, j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez tout à l'heure, Jacques Barthélémy, le être indépendant, ou c'est peut-être Denis Jacquet, je suis désolé, être indépendant, ça n'est pas être libre. Et c'est vrai que cette fausse promesse est considérablement décevante une fois qu'on s'aperçoit comment ça fonctionne. Et puis surtout, moi, ce qui me passionne naïvement ma crainte par rapport à ces histoires d'ubérisation, c'est que j'ai l'impression qu'elle aboutit à rendre les personnes, les auto-entrepreneurs ou les je ne sais pas
travailleurs indépendants,
fragilisés financièrement et isolés relationnellement. Et j'ai l'impression qu'on est en train d'assister par l'ubérisation à la destruction d'un écosystème relationnel qui existait dans le travail autrefois et qui est en train de se dissoudre et qu'on n'a pas cette réflexion écologique. L'humain dépend d'un écosystème naturel mais aussi relationnel.
Maître Barthélémy,
oui, il me semble qu'il faut faire la distinction que j'ai faite dans la précédente intervention entre les activités ubérisantes qui ne peuvent être exercées que par des personnes ayant un degré élevé, c'est-à-dire Bac plus 5. C'est-à-dire l'activité de consulting. Là, ce que vous venez de dire n'a aucune pertinence. Par contre, c'est parfaitement pertinent pour les activités, disons, ouvrières, si vous voulez, qui sont, à ce moment-là, carrément aliénantes.
Alors, je ne suis pas tout à fait sûr de ça, parce que, par exemple, quand on parlait, quand Denis Jacquet évoquait l'ubérisation de la médecine, des soins médicaux, si les médecins sont isolés, ça va à l'encontre d'un principe fondamental qui est de partager avec des confrères. On ne peut pas décider seul en médecine dans des cas complexes. C'est un peu ma crainte pour cette évolution.
Denis Jacquet.
Je pense que la clé de la réussite sera de décider ou de subir. C'est-à-dire que ce qui est vraiment important dans tous ces mécanismes, ce que vous rappeliez, c'est soit je le subis et j'y réfléchis pas, et c'est ce qui est en train de nous arriver, soit je le décide et je reste maître de ma propre autonomie, et c'est ça la clé.
Allez, nous attendons vos questions sur l'ubérisation au standard de France Inter, 01 45 24 7000, par mail grandbienvousfasse@radiofrance.com et sur notre page Facebook.
France Inter. Grand bien vous fasse, Ali Rebbi.
Cocktail, cocktail, dans mon salon bleu. Cocktail, cocktail, mon amande. Cocktail, flâneuse, tunnel veineux.
Interprété bleu.
Ali Rebbi, grand bien vous fasse. Sur France Inter.
10h40, jusqu'où ira l'ubérisation de nos sociétés? C'est notre thème ce matin en compagnie de Denis Jacquet, membre de l'Observatoire de l'ubérisation, et avec Jacques Barthélémy, avocat spécialisé en droit social.
Vous savez pour qui? On peut dire ou pas?
Oui, on peut. Principalement, je suis pour Equitizy.
Et là, pendant qu'on dit ça, on passe devant la concurrence, quoi, juste derrière vous.
On passe.
Place de la République.
Effectivement, on passe devant les gens de Foudroy.
Eux, ils ont un t-shirt rose.
T-shirt rose, à part ça, on a à peu près le même système de livraison. Il n'y a pas énormément de différence. Ils ont un forfait par heure, si je ne me trompe pas, qui est à 7,50€.
Et vous?
Nous, chez Taikit, on est à 7,50€ la course.
C'est vrai que je suis arrivé très fleur bleue sur le marché et en n'ayant absolument pas conscience que ce que c'était l'ubérisation des personnes. Et c'est vrai que quand j'ai lu le contrat, alors je ne sais pas si c'est proprement un contrat de travail ou pas, c'est-à-dire on nous a dit il faut que tu sois auto-entrepreneur pour toucher ton argent. En fait, quand on débute, on n'a pas conscience de ça. Ce système est bien, oui, mais c'est sans filet et c'est d'une violence extrême par rapport à la France. En prenant ce boulot, je me suis un peu réveillé. Je me suis dit, mais en fait, il y a des gens qui se sont battus il y a peut-être 70 ans pour qu'on ait cette chose dont on se rend absolument plus compte, où c'est tout à fait normal et qui est en train d'être mis à mal par ces nouveaux acteurs du marché.
Un extrait de l'émission Comme bruit qui court sur France Inter le samedi à 16h, émission diffusée le 11 juin dernier. Beaucoup de désillusions dans ce témoignage. Denis Jacquet, ce livreur, parle de travail sans filet, d'une violence extrême.
C'est très difficile parce qu'ils sont tellement nombreux, vous pouvez trouver chaque témoignage et à peu près son contraire. Hein, donc des gens qui vous disent mais c'est fantastique, ça a changé ma vie. Moi j'ai encore un chauffeur de VTC il n'y a pas longtemps à Marseille qui me disait ah, voilà, moi c'est ma deuxième partie de vie, je suis super content. J'ai rencontré une fille qui était serveuse de resto, elle m'a dit avant j'étais debout 10 heures par jour. Je vais vous dire, je suis au VTC, je trouve que c'est super confortable. Donc je crois que d'abord, beaucoup souffrent aujourd'hui d'une pression effectivement sur les prix, mais en fait, on dit c'est eux qui sont responsables. J'aimerais qu'on réfléchisse tous ensemble, et vos auditeurs, en se disant mais est-ce que c'est pas moi qui suis responsable ? C'est-à-dire quand vous choisissez une boîte qui vous dit la livraison, moi c'est 1 euro, ah ben non, moi c'est gratuit, et que vous choisissez c'est gratuit pour économiser 1 euro. Vous êtes en train de dire à celui qui aurait pu toucher 7 euros qu'il ne le touchera pas. Donc j'aimerais qu'on remette le consommateur dans sa réflexion, le consommateur dans sa responsabilité. À un moment donné, on a les emplois qu'on mérite. On a le statut social que l'on mérite. Et puis de l'autre côté, à un moment donné, cette ubérisation, le côté positif que j'y vois, c'est qu'elle est en train de pousser par le bas une réforme qui est interdite par le haut. C'est-à-dire, comme on ne veut pas regarder le droit du travail, comme on ne veut pas le faire bouger, comme on ne veut pas l'adapter, ce qui ne signifie pas précariser les gens, ce qui signifie l'adapter au monde, bah, et du coup, il se fait par la force. Et on dit, oh, c'est terrible, il se fait par la force. Bah oui, il fallait juste le réfléchir et l'anticiper. Donc, tant qu'on aura des politiques sans courage, on aura des mesures sans social. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix. Donc, le consommateur est responsable, vous êtes, je suis, nous sommes responsables collectivement du type d'emploi ou du type de protection qu'on veut donner, parce que si on ne les paye pas, bah, quelqu'un d'autre ne les payera pas pour nous non plus.
À propos de protection, Maître Barthélémy, est-ce que le droit du travail actuel est adapté à nos sociétés qui s'ubérisent ?
Alors, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Le droit du travail a été créé à la fin du 19e siècle par et pour la civilisation de l'usine et il est en harmonie avec les modes d'organisation tayloriens, hiérarchiques. Au fur et à mesure que, grâce au progrès technique, on sort de ce registre-là, eh bien, on s'aperçoit que ça entraîne de l'insécurité juridique et une judiciarisation excessive. Vous évoquiez là tout à l'heure...
Christophe André.
Montesquieu. Montesquieu a écrit une phrase superbe dans l'Esprit des lois. Le signe le plus avéré de la décadence d'une société est la prolifération des lois. Il vaut mieux laisser la place à plus de contrats. Et c'est bien ce qui se passe, Monsieur Jacquet, actuellement dans le droit du travail. Sous l'impulsion qui est pas récente de Chaban-Delmas, on construit peu à peu un droit du travail plus contractuel et moins réglementaire, tout en ayant le souci de la nécessité de protéger la partie faible. La loi Comory, à cet égard, n'est qu'une étape par rapport à ce qui s'est fait par le passé. Mais chaque fois, il y a des résistances fortes pour des raisons qui sont concevables, mais qui sont totalement inacceptables.
Des mails de plusieurs auditeurs. L'un d'entre eux nous dit « L'ubérisation, un merveilleux outil pour transformer le chômeur en travailleur pauvre, comme le prévoyait l'économiste Bernard Maris. » Et un autre témoignage « À la recherche d'un emploi à temps partiel, un éventuel employeur intéressé par mon profil me propose non pas un contrat de travail, mais de prendre le statut d'auto-entrepreneur pour facturer mes prestations. Il ne peut pas m'embaucher car il vient de licencier pour raison économique que je vais devoir m'ubériser pour décrocher cet emploi très intéressant. »
Ça, c'est la réflexion. Alors, moi, je suis entrepreneur de PME. J'ai toujours dirigé des PME. Je n'ai jamais travaillé dans un grand groupe de ma vie. À la sortie de l'école, 3 ans après avoir été avocat fiscaliste chez Christine Lagarde, j'ai créé ma première boîte et je n'ai jamais arrêté depuis. On est dans un pays très particulier avec 25 des plus grands groupes mondiaux. Et grosso modo, le droit du travail, la législation, la totalité de l'État, etc. est totalement fait pour eux. Voilà, parce qu'on a considéré que c'était eux qui, au journal de 20h, faisaient des étincelles quand ils licenciaient 5000 personnes, alors que nous, quand on licencie une personne, personne n'en parle. Bon. Sauf que 92% des boîtes de notre pays font moins de 10 salariés, voire moins de 5 salariés. Et on a voulu faire le même droit pour une boîte de 5 salariés et de trucs. Et on a une réserve d'emploi qui est colossale. Donc le jour où on aura compris qu'en libérant l'emploi par le droit du travail dans les PME, on va générer de l'emploi, au lieu effectivement de conduire à ces conditions qui poussent à cette ubérisation un peu forcée, un peu malheureuse, on pourra éviter effectivement les dégâts qu'on a nous-mêmes créés.
Bonjour Irène, vous appelez des Yvelines, bienvenue.
Oui, bonjour, merci pour votre excellente émission.
Merci.
Faire fonctionner la réécoute à plein parce que avec tout ce qui a été dit, ça dépasse mon entendement et donc du coup, je vais certainement trouver réponse à mes questions.
Quel est votre témoignage, Irène ?
Moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis entourée de jeunes dans ma famille, enfants et neveux, qui évidemment sont des adeptes de l'ubérisation, mais ils sont tous diplômés, pour la plupart, disons, et avec des bons emplois. Donc, ils ne se sentent pas encore concernés.
Pas encore concernés.
Pas encore, d'après moi. Et donc, j'essaie avec mes mots de leur montrer ce que je crois être une société dangereuse. Enfin, dangereuse, le mot est excessif, mais disons, qui va nous faire perdre tous les acquis sociaux, comme l'a dit un des intervenants tout à l'heure. Et ils ne... Enfin, je suis retraitée, donc je suis dépassée pour eux. Voilà. Donc, la réécoute va me permettre de trouver des arguments. J'avoue que... Voilà. Juste une petite parenthèse, vous avez, alors Uber bénéficie grâce à l'ubérisation d'une publicité extraordinaire, et chaque fois on nous dit qu'il y a d'autres plateformes, alors faut-il les convaincre, j'en sais rien, mais quelles sont-elles, et en plus français,
y a...
et on n'en parle jamais.
Alors il y a Allocab, il y a chauffeur privé notamment, voilà, et c'est vrai que la société, le mot Uber se prête bien à qualifier la révolution que nous sommes en train de vivre. Merci beaucoup Irène de votre appel. L'ubérisation inquiète également car elle pose la question des pertes d'emplois liées à ces technologies de l'information et de la communication. Que sait-on des destructions d'emplois provoquées par l'ubérisation ? Bruno Teboul, toujours lui directeur scientifique du groupe Kairos, nous dit que d'ici à 2025, 3,5 millions d'emplois seront détruits en France à cause de la numérisation et de l'ubérisation. À l'inverse, ce phénomène créera de nouvelles activités qui profiteront à une petite quantité de salariés très qualifiés.
En fait, il y a deux choses. Il y a le court terme. Pour l'instant, ça a créé de l'activité, puisque ça a sorti du chômage. Enfin, rien qu'en région parisienne, depuis 2009, c'est 49 000 VTC supplémentaires, avant même qu'Uber arrive. Donc aujourd'hui, on a une création d'activité, si on ne veut pas appeler ça des emplois, puisqu'ils sont indépendants, mais il y a le solde net est positif. Bon, après, c'est pas l'ubérisation, c'est l'automatisation, la robotisation qui est là en train. Et donc, ce que cite Bruno, c'est le rapport de Roland Berger qui a été fait il y a quelques mois et qui dit en gros 3,5 millions de destructions brutes, c'est-à-dire pas compensées par les créations. Donc, on sait pas quel est le solde exactement. Le MIT dit 40% à moins de 10 ans sur le monde entier, parce que toute tâche faite 3 fois est automatisable. Donc ça touche aussi bien un médecin, un bac plus 30, un bac plus 10, etc. Donc vont disparaître 2 types de boulot en premier temps. Toutes les tâches de basse qualification répétitives et toutes les tâches de haute qualification, elles aussi éventuellement répétitives.
Maître Barthélémy ?
Oui, je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit, mais ça n'est pas spécifique à la révolution technologique que nous connaissons aujourd'hui. À chaque révolution industrielle, le problème s'est posé exactement de la même manière. Peut-être l'ampleur est-elle plus grande, et peut-être, vous l'avez dit, Monsieur Jacquet, vous avez raison, qu'on ne sait pas très bien vers où on va.
Là, on ne sait pas où les déverser.
Alors que là... il y a toujours eu la réponse, avec un certain décalage, de création non seulement d'emplois, mais d'activités nouvelles. Et le problème peut-être le plus important, c'est de donner sa pleine mesure à la formation pour que les gens puissent quitter une situation pour passer dans une autre.
Alors pouvez-vous nous expliquer en quelques mots les débats entre les tenants de la disruption destructrice et ceux qui défendent la théorie de la destruction créatrice, chère à l'économiste Schumpeter. Je rappelle que disruption est un anglicisme qui veut dire perturbation. Pour l'inventeur du concept de la disruption, Jean-Marie Dru, l'innovation disruptive est une innovation de rupture par opposition à l'innovation incrémentale qui se contente d'optimiser l'existant. Denis Jacquet.
Et là, j'ai déjà mal à la tête.
Alors, simplifiez-nous tout ça, s'il vous plaît.
Alors, en langage simple, c'est-à-dire celle que moi-même je peux comprendre pour ne pas être économiste. En réalité, effectivement, je pense que tout ce qu'on a observé depuis les différentes révolutions, on a eu la transformation par la technologie ou une invention d'une industrie. Bon, on a pris les calèches, on est passé à des moyens de locomotion différents, puis la voiture est arrivée, mais à chaque fois on a transformé des jobs, mais qui étaient toujours nécessaires. Toujours des jobs de basse qualification, mais on en avait besoin. Là, en fait, quand on regarde vraiment de très près, c'est ça qui fait un peu peur, c'est que on voit comment on les crée, mais derrière, moi j'étais en Asie cet été, je regardais. Dans le journal, je voyais à peu près entre 5 000, 6 000, 10 000, 20 000 destructions d'emplois dans des usines chinoises qui passaient à la robotisation. Japon aussi, qui vient d'annoncer, non pas des bacs plus 3, qui font du crédit d'assurance tous les jours. 6 000 vont être détruits là dans les 2 prochaines années. Et il n'y a aucune solution pour les remplacer. Ouais, parce qu'ils vont dans l'usine d'à côté, qui dit, peut-être que celle-là, elle va sur une nouvelle technologie, dans laquelle, comme dans les précédentes révolutions, on va pouvoir la déverser. Ben non, la nouvelle technologie, c'est de ne pas avoir d'hommes. Donc du coup, là, l'interrogation qu'on a tous, c'est qu'avant, on voyait bien qu'allait se créer une nouvelle masse de basse qualification, etc. là, elle n'existe pas. Et surtout, tout à coup, on s'attaque aussi aux hautes qualifications. Et là, on n'a toujours pas non plus de solution. Donc, elle a la grande difficulté, elle est ici.
Maître Barthélémy.
Oui, bon, j'ai pas grand-chose à ajouter à ça, sauf que devient encore plus important l'exigence de tout miser sur la formation, parce que c'est la seule manière de faire passer d'un état à un autre.
Christophe André.
Oui, moi j'ai une question à vous poser, c'est-à-dire que cette ubérisation qui est un phénomène mondial s'accompagne aussi, j'ai l'impression, et au moins d'un point de vue français, d'un détournement de revenus fiscaux considérable. C'est-à-dire toutes ces sociétés ne paient plus l'impôt ou en paient le minimum dans notre pays, donc il n'y a rien qui puisse enrichir l'État pour qu'il puisse accompagner ces grandes transformations. Et moi je pense que ça c'est encore un drame écologique, cette histoire de détournement de revenus de l'État au même moment que l'ubérisation est en train de se dérouler.
C'est à relativiser un tout petit peu. Moi, mon premier job, c'était, je répète toujours, c'était d'être avocat fiscaliste. Et mon métier, c'était de faire des économies d'impôts pour les grands groupes. Les grands groupes optimisent leur fiscalité depuis toujours, y compris les plus traditionnels. Donc, je veux dire, quelque part, l'économie digitale ne fait qu'emboîter le pas de ses aînés, très honnêtement.
L'amplifier
un petit peu. Oui, tant que ça.
Le fiscal est important, mais le social l'est beaucoup plus. Parce que la question qui va se poser, dans la mesure où aujourd'hui l'assiette des cotisations sociales, c'est les salaires, comment fait-on pour définir une assiette nouvelle? Et ça, c'est un vrai challenge.
Pour conclure, jusqu'où ira l'ubérisation de la société, en quelques mots, Denis Jacquet?
Ça va être très court parce que je ne sais pas.
Maître Barthélémy.
Moi, je regrette qu'on utilise le mot Uber et ubérisation.
Alors,
parce que c'est
un
pas
autre
ça,
mot.
Le problème, de fond, il n'est pas là. Il est que les nouvelles technologies du numérique créent une nouvelle société pour laquelle il faut construire un nouvel arsenal juridique. Et cet arsenal juridique ne peut être que le droit de l'activité professionnelle débordant, dépassant celui du travail.
Elle est à suivre l'intervention de Marie-Laure Zonshine, chef des actualités de Femmes Actuelles.
France Inter, grand bien vous fasse.
Rebonjour Marie-Laure Zonshine.
Rebonjour Ali.
Dans le Femmes Actuelles de cette semaine, vous vous demandez si l'on peut encore adopter en France, à l'occasion de la sortie du film Il a déjà tes yeux de Lucien Jean-Baptiste.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est ce film qui nous a donné l'idée de ce sujet, mais aussi et surtout le nouveau rapport de la mission d'adoption internationale qui a publié ses nouveaux chiffres il y a quelques jours. Alors il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 17 000 agréments qui sont délivrés par les conseils départementaux. Finalement, ce sont ces sésames qui disent aux futurs parents, oui, vous allez pouvoir adopter. Mais où, quand, comment? Pour l'instant, les choses suivent leur cours. Autrement dit, il n'y a pas 17 000 adoptions en parallèle.
Et le nombre d'enfants étrangers adoptables ne cesse de baisser.
Absolument. Voilà, c'est ça la difficulté. C'est qu'aujourd'hui, on va dire qu'on a à peu près 1500 enfants adoptés par an en France. Grosso modo, moitié-moitié entre des enfants pupilles de l'État, donc français, et donc des enfants étrangers. Sauf qu'aujourd'hui, on est à 725 qui ont été adoptés en 2016, donc les chiffres parus cette semaine, contre 5000 en 2005. C'est-à-dire qu'on a perdu, mais vraiment une masse énorme d'enfants adoptables. Alors le mot n'est pas très heureux, mais c'est celui-là. En venant de l'étranger, il y a pas mal d'explications. Certaines sont tout à fait louables. Beaucoup de ces pays ont signé récemment la Convention de La Haye qui date de 1993, mais certains l'ont signé il n'y a pas longtemps.
Qui restreint, cette convention restreint le nombre d'enfants adoptables.
Adoptables, effectivement, pour des bonnes raisons, c'est-à-dire pour lutter dans leur propre pays contre les trafics. Donc on donne la priorité dans ces pays-là aux enfants, aux parents adoptifs sur leur seuls eux-mêmes. Autrement dit, ça réduit le nombre d'enfants adoptables par des parents étrangers, notamment français. Il y a également le niveau de vie de certains pays, comme le Brésil ou même la Chine, qui, pour des raisons diverses, a augmenté. Donc, les parents chinois ou brésiliens essayent de garder sur leur propre sol ces enfants adoptables. Là encore, ça réduit les possibilités pour les parents français adoptifs. Et puis, il faut savoir aussi que 2/3 des enfants étrangers adoptables sont dits à besoins spécifiques. Alors, qu'est-ce qu'un besoin spécifique? Ce sont des enfants âgés de plus de 5 ans, des enfants porteurs d'un handicap, d'une pathologie ou même en fratrie. Et ça ne correspond pas toujours au projet des familles. Et c'est pourquoi beaucoup d'associations françaises, à quelques mois de la présidentielle bien évidemment, plaident pour un certain nombre d'éléments, notamment une réforme pour que le projet des parents coïncide avec la réalité, avec les besoins de l'enfant, qu'il y ait un meilleur accompagnement, une meilleure information pour ses parents, afin qu'évidemment la conjonction, la rencontre entre cet enfant et ses futurs parents se passe au mieux.
Merci beaucoup Marie-Laure Zonshine. Sunshine de Femme Actuelle, le papier. Ce papier sur l'adoption est à lire dans le numéro de cette semaine. Merci beaucoup Denis Jacquet d'être venu. Je sais, c'était
avec
trop
plaisir.
Court. Dernier ouvrage paru chez Duno, Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien, avec un point d'interrogation. Merci également Maître Jacques Barthélémy, travailler au 21e siècle, l'ubérisation de l'économie, avec également un point d'exclamation, mais d'interrogation. Ça vient de paraître chez Odile Jacob. Demain, dans Grand Bien vous fasse, on s'intéresse au tabou de la sexualité des plus de 60 ans. Ça ne vous concerne pas, Christophe André.
Il est sympa, Ali.
60 ans et bien au-delà, avec la québécoise Denise Bombardier, le sociologue Serge Guérin et avec la sexologue Hélène Jacquemin-Leverne. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur la sexualité des 60 ans et plus par mail, grand bien vous fasse, @radiofrance.com. À la technique ce matin, Florent Beauvallet et Alice Berger. La programmation musicale était signée Muriel Pérez.